Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, nous voilà à nouveau ensemble pour parler de la foi catholique, du catéchisme et toujours de la parole de Dieu, parce que ça nous fonde. Donc je suis le frère Philippe Jaillot du couvent des dominicains de Toulouse. Et avec toi, frère Édouard d'Ivry, qui a une grande expérience de l'enseignement de la théologie, et en particulier, tu choisis de revenir de manière toujours très, très fondamentale au catéchisme de l'Église catholique.
Catéchisme, bonne lecture. Et parce que le catéchisme de l'Église catholique, dans le fond, ne cesse pas d'interpréter la parole de Dieu. Et pour nous, c'est fondamental. Dieu parle et nous l'avons vu que c'est une parole vivante. Nous ne sommes pas sous le régime des gens du livre dans lequel il y aurait une sorte de réalité figée. Nous l'avions évoqué une autre fois. La foi chrétienne n'est pas une religion du livre. Le christianisme est la religion de la parole de Dieu, non d'un verbe écrit et muet, mais du verbe incarné et vivant. Pour qu'elle ne reste pas lettre morte, il faut que le Christ, parole éternelle du Dieu vivant, par l'Esprit Saint, nous ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures.
C'est là. J'appuie ce que tu disais tout à l'heure, que le catéchisme part pleinement de l'Écriture, de la parole de Dieu. C'est vrai que je trouve ça même fantastique. Parfois, on nous dit, on amène de la théologie de manière extérieure, le catéchisme serait quelque chose d'extérieur à l'Écriture. Il y a dans la foi chrétienne et dans la foi catholique en particulier un travail profondément ancré dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas à distance de la parole de Dieu.
Nous ne sommes jamais à distance de la parole de Dieu et Dieu nous autorise d'une certaine manière à l'assimiler, à la redire avec des mots brefs dans la brièveté de notre humanité. D'abord en temps, on ne dure pas très longtemps sur la terre. Et puis d'autre part, nos mots, on est assez restreint. Et c'est pour cela que dès le début de l'histoire de l'Église, nous avons eu des professions de foi, c'est-à-dire des credos qui ont été exprimés pour résumer ce qui était dit d'une manière beaucoup plus ample dans les quatre évangiles, dans toutes les lettres apostoliques, et arriver à le redire en quelques mots. Vous voyez, c'est ça souvent l'enjeu qui nous est donné. Jésus est souvent présenté par rapport même aux Écritures elles-mêmes comme un verbum abbreviatum, c'est-à-dire un verbe abrégé de toutes les Écritures. Pourquoi ? Parce qu'il est au sommet de toutes les Écritures. Il est, nous l'avons déjà évoqué antécédemment, il est celui qui a inspiré les Écritures. Et donc, il en est en même temps le résumé. Et quand je vais à Jésus, je trouve toutes les Écritures. Et d'où la nécessité, bien sûr, de les interpréter pour pouvoir recevoir ce que Jésus veut dire à travers chaque parole.
Alors, en effet, c'est important de se souvenir que la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu nous parle. Et j'aime toujours répéter que c'est notre premier sujet d'émerveillement, et comme c'est notre premier acte de foi, de dire que Dieu a parlé. Il reste que si la parole de Dieu n'est pas seulement un message, des fois on peut en faire un message de belle valeur, de belle morale, il y a bien un message du Seigneur pour nous. Et la question qui vient facilement, c'est comment l'interpréter, comme tu viens juste de le dire. Je trouve important de rappeler ce que l'on trouve dans l'abrégé du catéchisme de l'Église catholique au numéro 19. Je lis cet article que nous développerons peut-être pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on va mettre derrière ça. La Sainte Écriture doit être lue et interprétée avec l'aide de l'Esprit Saint et sous la conduite du magistère de l'Église, selon trois critères. Premièrement, attention au contenu et à l'unité de toute l'Écriture. Deuxièmement, lecture de l'Écriture dans la tradition vivante de l'Église. Et troisièmement, respect de l'analogie de la foi. C'est-à-dire
c'est
de la
difficile, oui.
Oui, nous l'expliquerons. Je compte sur toi, frère et toi. Respect de l'analogie de la foi, c'est-à-dire de la cohésion harmonieuse des vérités de la foi entre elles. Nous en avons le sens, je pense, de cela, mais c'est important que tu puisses mettre des mots précis dessus. Alors, que dire de ces trois critères ? Attention au contenu et à l'unité de toute l'Écriture.
Alors, On ne peut pas prendre une petite phrase de l'Écriture et en faire un tout. C'est ça qui est l'un des dangers majeurs dû à cet aspect très limité que nous sommes. C'est toujours notre tentation. Je prends un petit morceau et puis je dis, ça y est, j'ai découvert l'essentiel et je ne me fonde que sur ce petit élément. Or, il nous est rappelé qu'il faut tenir compte du contenu de l'unité de toute l'Écriture. C'est une dimension, donc, d'une certaine manière, de totalité qui nous est sans cesse rappelée. Parce que Dieu, bien sûr, est immense, il est infini. Il a voulu, cependant, nous parler avec des mots humains. Mais il ne faut pas, en tirant une demi-phrase ou un quart de mot, vous voyez, faire une espèce d'atrophie de la parole de Dieu. Et à chaque fois qu'il y a eu une hérésie, et le mot hérésie signifie cela, c'est-à-dire majorer une partie du dépôt de la foi au détriment du reste. Et on a toujours rappelé à ce moment-là, attention, il y a telle parole, mais il y a telle autre parole. Par exemple, Dieu dit très explicitement dans le Nouveau Testament qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, 1 Timothée 2:5. Je pourrais en conclure que tous les hommes sont sauvés, ça y est, puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors attention, il y a d'autres paroles de Dieu qui montrent que du côté de l'homme, il y a une exigence aussi qui est donnée par Dieu. Dieu, il est précisé par exemple dans Hébreux chapitre 5, verset 9, que Dieu est cause du salut pour ceux qui lui obéissent. Et donc il y a un enjeu de liberté personnelle pour recevoir ce salut. Ce n'est pas seulement Dieu qui nous imposerait ce salut et puis on irait tous au ciel, et on pourrait chanter avec le chanteur « Nous irons tous au paradis ». Mais il faut encore assimiler ce message, transformer mon cœur, le laisser se convertir et finalement obéir à la parole de Dieu. Alors, la foi est une obéissance.
Il y a là une grosse question théologique qui sera traitée par la suite, je pense. Mais en tout cas, je trouve important d'insister sur le fait que nous pouvons avoir ce méchant réflexe, je vais l'appeler comme ça, effectivement, de vouloir justifier nos actes, nos pensées, sur une phrase indépendamment de l'ensemble, et ça fait des débats malhonnêtes finalement dans la vie de l'Église. Hein.
Voilà, un peu comme chez quelqu'un, en publicité ou en politique, on prend une phrase de quelqu'un, on la met en exergue, et en fait on voit que le contexte est complètement différent, et c'est faux 100%.
La deuxième.
Alors, lire l'Écriture dans la tradition vivante de toute l'Église, c'est nous rappeler qu'il n'y a pas d'Écriture sans tissu réceptif, c'est-à-dire qu'il y a une communauté de vie qui part derrière et qui a transmis sa compréhension au fur et à mesure des textes et qui a mis en regard les différentes couches successives d'interprétation de l'Écriture. Et pour nous, ce sont les pères de l'Église qui ont un rôle déterminant pour interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament et percevoir donc déjà les germes qui sont dans la Première Alliance, qui conduisent à la Nouvelle Alliance, ce qui fait que à la lumière de la Nouvelle Alliance s'épanouit complètement ce texte des Écritures de la Première Alliance. C'est extraordinaire de voir ce travail permanent fait au cours des siècles. C'est un travail à la fois objectif et personnel. Objectif dans le sens que les mots sont là et on ne peut pas faire dire autre chose à l'Écriture que ce qu'elle dit. Mais en même temps, personnel, parce que ce travail de mon intelligence pour croire va développer en moi cette croissance de la compréhension de ce que Dieu veut me dire. Il y a cette expression, d'une certaine manière, « elle croit l'Écriture en la lisant », dit saint Grégoire le Grand. « Aliquo modo cum legentibus crescit ». Ce sont des beaux mots et il faut de temps en temps les entendre dans la langue originelle. Elle croit la parole de Dieu, d'une certaine manière, à force de faire des lectures successives. Et j'ai besoin de faire ma lecture personnelle, mais aussi la lecture des pères qui me donne finalement cette interprétation de la communauté chrétienne depuis les origines, depuis que les 12 apôtres ont été envoyés, allez, et de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur rappelant tout ce que je vous ai enseigné. C'est la finale de saint Matthieu.
Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais le troisième point, respect de l'analogie de la foi, c'est-à-dire cohésion de la cohésion harmonieuse et vérité de la foi entre elles. Comment parler de ça?
Alors, le mot analogie, c'est un mot tout simple qui veut dire proportion. Proportion veut dire qu'il y a des vérités qui ont été énoncées à travers les Écritures et qui ne peuvent pas être contrebalancées par une espèce de dialectique interne. Il ne peut y avoir qu'une coopération de ces différentes vérités vers la vérité tout entière, qui est le Christ. Il ne peut pas y avoir de dialectique, voyez, qui ferait qu'on puisse dire vert un jour, rouge le lendemain, et que finalement on arriverait à une sorte de couleur intermédiaire, si vous voulez, par une forme de synthèse qui en déboucherait. Non, tout est à prendre. Mais tout est à prendre en considération à travers sans cesse des vérités plus hautes qui permettent, si vous voulez, d'intégrer ce qui est dit parfois à un niveau plus, je dirais, basique. Il suffit de lire le livre des Proverbes ou de l'Ecclésiastique pour voir qu'il y a plein de vérités très basiques qui sont données.